Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un sage oriental demandait toujours dans ses prières que la divinité voulût bien lui épargner de vivre une époque intéressante. Comme nous ne sommes pas sages, la divinité ne nous a pas épargnés et nous vivons une époque intéressante. En tout cas, elle n'admet pas que nous puissions nous désintéresser d'elle. Ces phrases d'Albert Camus sont celles qui ouvrent son discours de réception du prix Nobel prononcé à Stockholm le 10 décembre 1957. Camus fut peut-être l'écrivain de sa génération le plus conscient d'appartenir à une génération, justement, c'est-à-dire de vivre en un temps d'incertitude fondamentale et de mutation profonde, un temps où tout vacillait, à mi-chemin entre les catastrophes qui venaient de se produire et celles qui guettaient, et où justement, pour ces raisons, l'idéologie d'un côté et la réaction de l'autre régnaient en maître. Pour tenir sa position solitaire, il estimait que l'écrivain devait apprendre à se forger un art de vivre partant de catastrophes. Justifié ou bien non, ce sentiment de catastrophe imminente n'est pas moins absent de notre époque où la normalité semble une chose du passé, où l'avenir semble plus que jamais imprévisible. Comment l'éthique solitaire de Camus résonne aujourd'hui pour nous, nous qui vivons dans un temps aussi différent du sien qu'il est possible, mais peut-être pas moins instable? C'est ce que nous allons voir avec nos invités aujourd'hui. Adèle Van Rijck, bonjour.
Bonjour Marc.
Vous êtes philosophe, vous êtes productrice des Chemins de la philosophie ici sur France Culture. Et vous publiez ce mois-ci La vie ordinaire, que vous définissez la vie ordinaire comme une vie d'hypocrite, si j'ai bien compris dans votre livre.
C'est une des définitions que je donne, c'est plus compliqué que ça. Mais...
Ça existe encore l'ordinaire?
Le problème de l'ordinaire, justement, pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est parce que ça existera toujours et qu'on s'en débarrassera jamais.
D'accord. Benjamin Stora, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'Algérie, particulièrement de la guerre d'Algérie, l'histoire du Maghreb et de l'Empire colonial. Vous êtes président du Conseil d'orientation de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration et vous publiez en ce moment une mémoire algérienne, un énorme volume dans la collection Bouquins chez Lafont, plus de 1000 pages qui réunissent 6 de vos livres, Les clés retrouvées, qui parle de votre enfance juive à Constantine, La dernière génération d'octobre, sur votre militantisme, Les guerres sans fin, le mystère de Gaulle, François Mitterrand et la guerre d'Algérie, et enfin les trois exils. C'est ça?
Oui, tout à fait, mais je ne suis plus président du...
Vous n'êtes plus président, tant pour moi.
Voilà. Depuis plusieurs mois.
D'accord. Et Boris Leroy, bonjour.
Bonjour Marc.
Vous êtes écrivain, vous êtes déjà venu dans cette émission pour votre roman L'écriture occidentale, et vous enseignez en ce moment au Master Création littéraire à Paris 8.
Oui, j'intègre l'équipe.
Voilà. Alors, Camus aujourd'hui, cette idée d'une époque intéressante, cette idée de se forger un art de vivre partant de catastrophes, comment est-ce que ça résonne? Ce qu'il dit exactement dans son discours, c'est que la plupart d'entre nous se sont mis à la recherche d'une légitimité. Il parle des gens de sa génération. Il leur a fallu se forger un art de vivre partant de catastrophes pour naître une seconde fois et lutter ensuite à visage découvert contre l'instinct de mort à l'œuvre dans notre histoire. C'est ce passage-là que j'ai retenu pour ouvrir la discussion, Adèle Van Rijck, sur cet art de vivre partant de catastrophes.
Oui, il faut bien préciser que pour Camus, ce qu'il fait à ce moment-là de son discours, qui est très court, hein, il est en deux temps, trois jours après, il prononce un autre discours qui est un petit peu plus développé, mais dans les deux cas, il propose qu'on pourrait appeler une sorte d'éthique de l'écrivain. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment en tant qu'écrivain et en tant qu'artiste, en tant qu'intellectuel, en fait, les trois termes en fait sont subsumés par celui d'artiste dans ce discours-là. Mmh. Il montre bien qu'il y a une façon d'écrire qui est toujours problématique. C'est que d'un côté, l'artiste, l'écrivain, l'intellectuel ne peut pas se couper du monde, et de l'autre, s'il est trop inscrit dans le monde, s'il a conscience qu'il fait partie de cette communauté qui est l'être humain, qui ne sont pas les communautés particulières, mais qu'il est trop de ce côté-là, alors il ne pourra plus écrire. Si bien que savoir comment tenir le cap en cas de catastrophe, ça devient la règle numéro un pour quiconque décide de prendre la parole, mais que cette position sera toujours déchirée. Le premier combat à mener, dit-il, pour un écrivain, c'est contre lui-même. Cette phrase-là est extrêmement forte parce qu'elle montre bien que celui qui veut prendre la parole, encore une fois, celui qui veut écrire, il aura toujours un rôle problématique. Mmh. S'il se tait, on lui reproche. S'il parle, on lui reproche. Comment faire?
Oui, c'est, il appartient et il n'appartient pas en même temps.
Il appartient résolument à l'humanité. C'est le grand oui qu'appelle Camus de ses voeux, le oui de l'homme révolté qui dit oui avant de dire non. C'est le oui à cette communauté qu'est l'homme, que sont les êtres vivants. Mais il a un rôle particulier parce que dans cette communauté humaine, il tient un rôle qui sera toujours problématique, qui sera toujours taxé d'être un luxe mensonger, dit-il, ou bien d'être récupéré par une idéologie politique. Mmh. Donc c'est forcément déchirant, et lui-même est forcément déchiré, et c'est ça qui fait que les réflexions autour du rôle de l'écrivain en politique et dans la société sont encore d'actualité aujourd'hui, parce que ça sera toujours un problème, en fait.
Mmh. Boris Leroy, vous êtes romancier. Dans votre pratique, cette notion ce déchirement, c'est présent dans votre démarche, dans votre écriture?
Mon déchirement, il est plutôt d'essayer de trouver des dispositifs singuliers qui puissent rapporter et m'inscrire dans le temps. Je ferai une toute petite différence entre prendre la parole et chercher justement des dispositifs de fiction, en tout cas chez moi, littéraire, qui puissent bouger des attendus. La prise de parole, est-ce qu'on ne doit pas la penser plus par rapport à des discours, par rapport à des prises de position médiatiques? Mm-hmm. Après, l'écriture elle-même, ce sont des recherches de dispositifs, de phrases, même si c'est un sujet d'actualité, on va être sur un engagement qui est temporaire. En fait, on va s'inscrire après dans ce qui peut être dans des grandes lignes du moment, mais pas forcément dans une prise de parole, plutôt dans une prise d'écriture organique.
Camus disait, ce n'est pas le combat qui fait de nous des artistes, mais l'art qui nous contraint à être des combattants. Et il définit sa position non pas comme l'engagement sartrien, mais comme le fait d'être embarqué. Il dit l'artiste, qu'il le veuille ou non, est embarqué. C'est un terme qui ne paraît plus juste qu'engagé. Il ne s'agit pas d'un engagement volontaire, mais d'un service militaire obligatoire. Benjamin Stora, est-ce que pour vous, est-ce que cette démarche un peu d'embarquement involontaire mais conscient, est-ce que ça s'inscrit est-ce que le fait qu'il était algérien joue un rôle là-dedans, dans cette façon d'appartenir et de ne pas appartenir de faire un pas de côté tout en étant plongé dans l'époque?
C'est certain, dans la mesure où il appartient à cette histoire algérienne qui elle-même est une terre absolument complexe, parce qu'il est à la fois partie prenante de l'histoire des Européens d'Algérie, il y fait partie de cette communauté des Européens d'Algérie, bien sûr, mais en même temps, surtout à la fin des années 30 et jusqu'aux années 50, il va défendre, disons, la condition de vie des Algériens musulmans. Il sera résolument à leur côté, ce qu'on a oublié aujourd'hui. Mm-hmm. Il a été, par ses reportages, en particulier dans Misère de la Kabylie, oui. Il a parfaitement expliqué quelles étaient les conditions inhumaines, disons, des indigènes, comme on disait à l'époque. Donc il est à la fois partagé entre son amour pour l'Algérie et des siens, et en même temps son besoin d'égalité et de justice pour les Algériens musulmans. Donc il est effectivement, vous avez raison de le souligner, dans cette sorte d'entre-deux et d'être embarqué dans une aventure, dans une histoire, dans un engrenage, dans un cycle qui le dépasse, bien sûr.
Oui, alors c'est un entre-deux qui ne cherche pas à résoudre, en fait. Il cherche cette place d'une certaine manière. Il cherche moins à prendre parti qu'à creuser cette contradiction pour en faire quelque chose. Adèle.
Oui, tout à fait. Je ne sais pas s'il cherche la place, je pense qu'il l'a trouvée, mais que celle-ci est toujours problématique. D'ailleurs, c'est ce que le terme d'embarquer dit bien, puisque vous l'avez cité. Vous êtes embarqué, c'est une phrase qu'on trouve chez Pascal, chez le philosophe Pascal, quand il s'adresse à ceux qu'il veut essayer de convertir au christianisme en disant « mais regardez, vous passez vos journées à jouer au casino, etc. » Eh bien, faites le pari que Dieu existe, vous n'avez rien à perdre. Dans le pire des cas, il n'existe pas, ça ne change rien à votre existence. Vous êtes embarqués, nous sommes embarqués, ça veut dire nous sommes nés, nous allons mourir, nous n'avons pas d'autre choix que d'être en vie et que de faire quelque chose de cette vie. Donc en fait, il y a une dimension vraiment existentielle derrière ce terme-là, et je pense que Camus l'utilise à dessein. C'est pour dire, au fond, ce qu'il importe à ce moment-là, au moment où il prononce son discours de réception du prix Nobel, quand même, c'est d'inscrire ce moment en particulier, la réception d'un prix Nobel, dans quelque chose de beaucoup plus large, qui est plus existentiel et qui induit un certain rapport à l'existence. Mmh. On est embarqué, on n'a pas le choix, on fait comme on peut, mais il y a une certaine dignité à atteindre et une certaine éthique à suivre. Et c'est vraiment ce qui ressort de ce discours-là que j'invite à relire. Il est incroyable. Vraiment, quand on le relit, il a eu un écho incroyable avec aujourd'hui.
Oui, et alors une des raisons, c'est que tout de suite après l'idée de se forger un art de vivre partant de catastrophes, vient le passage que tout le monde cite tout le temps, qui est chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Et il explique tout de suite pourquoi il craint que le monde se défasse. C'est-à-dire que sa génération est héritière d'une histoire corrompue où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts, les idéologies exténuées, etc. C'est-à-dire qu'il est embarqué dans un monde qui est pratiquement, qui est à la limite de l'effondrement. Benjamin Stora.
Oui, effectivement, parce que n'oublions pas qu'en 1957, nous sommes en plein dans la guerre d'Algérie. Il faut contextualiser Camus un petit peu quand même, parce qu'en plein dans la guerre d'Algérie, et au moment de la bataille d'Alger, qui a été absolument effroyable, avec la torture, les exécutions sommaires, la guillotine, et on le sait tous, Camus était contre la peine de mort, bien entendu, et profondément malheureux de ce qui est arrivé, disons, à la fois aux Européens d'Algérie, mais aussi aux Algériens musulmans par milliers qui avaient été victimes de cette répression terrible. Donc il y a ce contexte-là, de cet effondrement, de cette catastrophe, qui va l'obliger, on le sait tous, bien sûr, à se mettre en retrait, à prendre, disons, une distance assez forte, sur le plan public tout au moins, par rapport à cette tragédie algérienne. Donc, effectivement, il est embarqué, il sent que des forces qu'il n'arrive plus à contrôler, qu'il n'arrive plus à maîtriser, lui qui, précisément, a essayé d'être pour la révolte et le refus, tout en refusant l'idéologie et la révolution qui se termine, comme on le sait très souvent, sur les systèmes à parti unique, eh bien, il essaye, il comprend qu'on va vers ça, qu'on roule vers ça, et que, dans le fond, il n'a pas peut-être suffisamment de force pour pouvoir essayer de peser sur cette situation historique très, très particulière.
Mais alors, l'Algérie n'est pas le seul facteur déterminant. Et d'ailleurs, il en parle assez peu dans les premières. Évidemment, certaines des conférences se passent avant la guerre d'Algérie de toute façon. Mais même en 57, il en parle relativement peu. Il y a une conférence qui date de 49 dans laquelle il parle de son adversaire principal, qui est à l'époque le nihilisme. Et c'est intéressant parce que ça montre comment sa génération se définit. Il dit les hommes de mon âge en France et en Europe sont nés juste avant ou pendant la Première Guerre mondiale. Ils sont arrivés à l'adolescence au moment de la crise économique mondiale, ont eu 20 ans dans l'année où Hitler a pris le pouvoir. Pour compléter leur éducation, on leur a offert la guerre d'Espagne, Munich, la guerre de 39, la défaite et 4 années d'occupation et de lutte clandestine. Pour finir, on leur promet le feu d'artifice atomique. Autrement dit, cette génération, par ailleurs, est entrée dans cette interminable expérience avec les seules forces de la révolte puisqu'elle ne croyait en rien. La littérature de son temps était en révolte contre la clarté, la peinture contre le sujet, la musique refusait la mélodie. Quant à la philosophie, elle enseignait qu'il n'y avait pas de vérité, mais seulement des phénomènes. C'est cette génération qui, ne croyant en rien, a été obligée de se battre. Or, dit Camus, pour se battre, il faut croire en quelque chose. Ces hommes-là, apparemment, ne croyaient en rien, ils ne pouvaient donc pas se battre. Mais si l'on ne se bat pas, on adopte les valeurs de l'ennemi, même si elles sont méprisables. Là, il me semble que dans ce passage que j'ai lu de manière assez longue, Camus montre le dilemme de sa génération et explique d'une certaine manière aussi le choix de ceux qui ont choisi la collaboration, d'une certaine manière, contre ceux qui ont résisté, c'est-à-dire ne croire en rien, adopter les valeurs de l'ennemi, ou décider que l'on va croire quand même en quelque chose, même si en quoi croire reste problématique.
Oui, d'ailleurs, Camus le dit lui-même, qu'il a un rapport à la foi problématique, et parfois il faut entendre en effet cette croyance qui, si elle manque, produit le nihilisme. Mais quel est le problème avec le nihilisme? C'est qu'au fond, si on croit à rien, si rien n'a de sens, si on ne peut affirmer aucune valeur, alors tout est permis. Rien n'a d'importance, et ajoute-t-il, alors il n'y a ni bien ni mal, et Hitler, par exemple, n'a eu ni tort ni raison.
Oui.
Cette phrase-là, elle est formidable, elle fait comprendre en deux mots pourquoi le nihilisme serait un problème. Mais une chose est d'affirmer ça, une autre est de dire, de donner un contenu à cette croyance. Oui. Et là où Camus est formidable, c'est qu'il ne dit pas forcément en quoi il croit. Il dit lui-même après, il dit « mais moi je crois pas que j'ai pas d'absolu, vraiment, mais en revanche il y a des choses dont je suis convaincu, il y a des choses qui valent la peine de se battre, et tous les moyens ne sont pas permis pour y parvenir ». Ça, il tient énormément là-dessus, c'est ce qu'il dit dans la pièce « Les Justes ». Il montre bien qu'un acte terroriste qui s'apprête à être commis, finalement, doit-il être suspendu si on se rend compte que parmi les gens qui allaient être tués, se trouve un enfant. Faut-il ou non, est-ce que la fin justifie les moyens? Faut-il tuer ces enfants, cet enfant, pour établir au nom d'une justice supérieure? Camus dit non.
Oui, ce sera le fameux débat au moment de la guerre d'Algérie aussi.
Voilà, donc il croit en quelque chose, mais il ne donne pas un contenu, totalisant à cette croyance. Oui. C'est là toute sa force, donc il peut à la fois affirmer cette croyance et rester dans la nuance.
Oui, ce débat-là va rejaillir au moment de la guerre d'Algérie, Benjamin Stora.
Pour Camus. Tout à fait, mais vous avez signalé dans le long passage que vous avez cité un épisode historique qui est celui de la guerre d'Espagne.
Oui.
Parce que Camus est très profondément marqué par l'Espagne, dans la mesure où on connaît bien sûr les origines espagnoles de sa mère, etc. Et la guerre d'Espagne se le rapproche des mouvements libertaires, anarchistes, trotskistes et révolutionnaires. Ça, c'est très important dans sa démarche, disons, de réflexion philosophique, théorique ou politique, parce que dans cette guerre d'Espagne, il va se découvrir anti-stalinien. C'est-à-dire proche des mouvements libertaires et des mouvements anarchistes avec lesquels il va continuer à cheminer pendant de très longues années, et y compris pendant la guerre d'Algérie, parce que les premières victimes qui ont été arrêtées pendant la guerre d'Algérie dès 54-55, ce sont les militants anarchistes qui vont être emprisonnés. Et Camus est très proche d'eux, il est proche des Espagnols, proche, disons, de ces mouvances qui sont antitotalitaires, antistaliniennes, mais pas forcément pro-colonial, anticolonial aussi. Et on l'a, à travers cette mouvance-là, qui est très souvent et malheureusement ignorée, ou déformée par certains qui essayent, ou qui s'essayent à vouloir recomposer la vie de Camus, eh bien, on a effectivement, et je le dis par un témoignage personnel, puisque j'ai été très très proche de très vieux militants anarchistes et trotskistes qui connaissaient personnellement Albert Camus, et en particulier l'avocat Yves de Chézel, qui était l'avocat de Messali, et qui était un ami personnel d'Albert Camus avec sa femme Myriam, et qui m'ont très souvent raconté, disons, les engagements de Camus sur la guerre d'Algérie à partir, disons, de la guerre d'Espagne, et le refus du stalinisme, le refus du parti unique, le refus et la tragédie que pouvait constituer pour l'Algérie la mise en place d'une organisation du type FLN qui aurait, disons, nié le problème de la multiplicité des points de vue, de la diversité des prises de position politiques. Et Camus, c'est pour ça qu'il ne voulait pas s'engager à ce niveau-là, parce qu'il restait fermement accroché à la notion de la pluralité politique et de la refus et le refus du stalinisme. C'est quelque chose de très important chez lui qu'on néglige malheureusement trop souvent.
Sur la question du nihilisme dans le choix à faire dans sa génération, il y a une phrase formidable dans Le Temps des meurtriers. Il écrit : il n'y a pas longtemps, c'était les mauvaises actions qui demandaient à être justifiées. Aujourd'hui, ce sont les bonnes. C'est-à-dire que si on ne croit en rien, effectivement, pourquoi faire quoi que ce soit ?
Oui, c'est ça. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut permettre de conjurer le nihilisme. Qu'est-ce qui est proposé pour autant ? C'est ça qui est compliqué. C'est en ça, je crois, que Camus reste très contemporain, alors que c'est vraiment quelqu'un qui était soucieux de s'adresser à sa génération. Le terme de génération revient très souvent sous sa plume.
Ouais.
Nous ne faisons pas partie aujourd'hui de la même génération. Et pourtant, il y a une sorte de viatique qu'il énonce là pour l'écrivain, dans la manière que celui-ci pourrait avoir de s'adresser à sa génération. Et je pense notamment à ce qu'il appelle dans le texte que vous citiez tout à l'heure, hein, la polémique. Ça, c'est quand même quelque chose de très contemporain.
Oui, alors on va y revenir.
On garde
après. On va y revenir, oui. Alors, Albert Camus et la question du nihilisme, c'est ce nihilisme qui combat dans l'engagement pour la résistance dès le début de l'occupation et qu'on va retrouver dans les années 50. C'est-à-dire quand il prononce ses discours, autant le temps des meurtriers que le discours de Stockholm, il y a aussi un contexte particulier qui est celui des débuts de la guerre froide et de la perspective de l'apocalypse nucléaire. Qui est un peu la base de notre époque, enfin en tout cas le premier épisode. C'est une époque où Malraux peut dire, par exemple, nous savons maintenant que nos paix sont aussi vulnérables que les précédentes, que la démocratie porte en elle le capitalisme, les polices totalitaires, que science et progrès permettent les bombes atomiques, que la raison ne suffit pas à rendre compte de l'homme, on entre dans l'ère de la fin de l'individu soufflée par la bombe. Et l'année même du discours de Stockholm, Norman Mailer, aux États-Unis, dans Le Nègre Blanc, écrit pour la première fois dans l'histoire, nous sommes forcés de vivre avec la conscience étouffée que les plus petites facettes de notre personnalité ou les plus mineures de nos idées ou même l'absence de personnalité peuvent signifier que nous soyons condamnés à mourir comme de simples unités d'une vaste opération statistique. Mailer d'ailleurs développe dans ce livre l'idée que le psychopathe pourrait bien être l'avant-garde pervertie et dangereux d'une nouvelle forme de personnalité qui pourrait devenir l'expression centrale de la nature humaine à la fin du XXe siècle. Et la question reste ouverte de savoir s'il a eu raison ou pas. Mais Camus, en tout cas, s'inscrit, à mon avis, là-dedans. Camus s'inscrit dans ces esprits qui ont sonné l'alarme face à ce qui était en train de se mettre en place, non seulement après-guerre, mais avec l'avenir qui s'annonçait avec le péril nucléaire.
Oui, tout à fait. Il est connu pour ça et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles il s'est fâché avec beaucoup de ses amis à ce moment-là. Il tenait pour ennemi principal ou sujet de peur prioritaire ce qu'il appelait l'abstraction. Il dit l'Europe est en train de mourir de cette abstraction-là. Il faut l'entendre sous plusieurs angles. C'est l'abstraction à la fois, ce que vous disiez, finalement, c'est le chiffre qui remplace l'appréciation, on va dire, par autre chose que par le chiffre.
La statistique.
Voilà.
Comme aujourd'hui, les algorithmes.
Hein. C'est ça, exactement. C'est aussi une forme d'idéologie qui est abstraite, c'est-à-dire qu'elle tourne le dos à ce qui fait que l'homme est homme. Et dans le système de laquelle l'homme n'est qu'un chiffre, justement. Donc les deux sont liés. Et ça, c'est un des premiers, effectivement, à attirer l'attention là-dessus. Et dès 46, le texte s'appelle « La crise de l'homme ». Il le dit, c'est très frappant. Et il dit bien ce qu'il faut faire, que devons-nous faire pour conjurer cette crise de l'homme. Il dit, eh bien, il faut commencer par appeler les choses par leur nom. On ne pense pas mal parce qu'on est un meurtrier. On est un meurtrier parce qu'on pense mal. C'est ainsi qu'on peut être un meurtrier sans avoir jamais tué, apparemment. Vous imaginez, en 46, à quel point ça peut être glaçant pour toutes les personnes qui n'osaient pas se regarder dans le miroir à ce moment-là.
Boris Leroy, vous pensez pas que ça fait que l'époque de Camus, pas seulement Camus, mais son époque fait écho d'une certaine façon à la nôtre, enfin, pas certaines des inquiétudes.
Les inquiétudes par rapport au terrorisme, par rapport à l'écosystème, le cataclysme environnemental, ça c'est sûr.
Et par rapport à une géopolitique devenue où il n'y a pas encore, ça se passe avant la crise des missiles de Cuba. Donc les bornes géopolitiques qu'on a connues nous de la guerre froide ne sont pas encore fixées. N'importe quoi peut arriver. Et c'est un peu ça qu'on a. Il me semble que ça aussi fait écho avec notre époque.
Oui, c'est ce que j'ai essayé un peu dans l'éducation occidentale de donner comme impression d'un instantané de par exemple le néocolonialisme qui reste encore les idéologies extrémistes qui persistent. Et c'est vrai que comme dispositif littéraire, justement, c'est là que je reviens un peu à la puissance de ce que Camus avait proposé, par exemple dans L'Étranger, sur un personnage qui était d'une insensibilité un peu apparente, hein, je dis bien, et c'est ce que j'avais essayé aussi de travailler sur le personnage de Ona, qui travaille à l'ONU, et d'essayer de transcrire justement cette insensibilité apparente pour que plutôt le lecteur s'engage lui-même, ressente et s'embarque plutôt que moi je devais m'embarquer qu'auteur.
Alors, ces abstractions, Adèle Van Rett, sont évidemment il y a les statistiques, et il y a l'idéologie. Ça va être la source de la grande dispute avec Sartre et avec Beauvoir. Benjamin Stora, vous parliez du stalinisme tout à l'heure. Camus s'inscrit directement contre contre Sartre et Beauvoir et contre finalement le refuge dans le soutien au communisme et sinon dans le communisme strict.
Vous vous adressez à moi ?
Oui, je vous adresse à vous.
Ah, pardon, excusez-moi, j'ai pas compris. Oui, évidemment, bien sûr, Sartre est très engagé, hein, mais il est engagé aux côtés du FLN. Parce que c'est très politique tout ça quand même, mm-hmm. hein, alors que Albert Camus, lui, ne veut pas se lier de manière exclusive au FLN parce que ce parti, et on se réclame de la notion de parti unique, alors mm-hmm. que lui précisément refuse absolument mm-hmm. cela parce qu'il est, comme on dit, c'est un homme de la mesure, hein, qui écrit qui refuse, disons, les logiques extrêmes de l'histoire, qui peuvent se transformer en crime, en épuration, et puis l'exclusivisme politique, il le rejette absolument. Comme je le disais tout à l'heure, il est surtout sur une orientation de type pluraliste oui. politique. Ce qui le fait se rapprocher d'ailleurs de personnages comme Bessaliage ou autres qui ont été éliminés d'ailleurs ensuite dans la guerre. Donc Sartre et Simone de Beauvoir, comme Claude Lanzmann d'ailleurs, et Jean Daniel, étaient très engagés oui. hein, du côté du FLN. Et Camus s'est retrouvé très seul oui. parce que, précisément, lui, tout en continuant son combat secrètement, ce qui est peu connu, contre la peine de mort, et il a adressé, je le sais parce que j'ai lu ses lettres, au président de la République à l'époque, en 57, et au garde des Sceaux, tout en continuant son combat contre la guillotine, contre la peine de mort, y compris aux militants nationalistes algériens avec lesquels il n'était pas d'accord, mais il combattait, et c'est pas connu, mais il combattait pour le fait qu'il ne soit pas guillotiné, enfin, fermons cette parenthèse, mais qui est très importante, quand même, mmh, très très mmh. importante, ça veut dire que même s'il n'était pas d'accord avec les objectifs politiques des nationalistes algériens, eh bien, il ne voulait sûrement pas qu'une violence extrême soit déchaînée contre eux. Mmh. Et ce qui prouve aussi sa grandeur d'âme quelque part, hein, parce que c'était pas évident dans une situation où les siens risquaient, disons, eux-mêmes de mourir. Mmh. Bien sûr, sa mère, on connaît tous la phrase, on connaît tous son dilemme sur cette question-là. Donc c'est ce qui est visé à travers Camus, c'était l'homme de la mesure. Mmh. C'est-à-dire celui qui refusait les extrêmes et qui essayait de dégager ce qu'on appelait à l'époque, et qui est revenu un petit peu à la mode aujourd'hui, ce qu'on appelait à l'époque la troisième voie. C'est-à-dire le fait de vouloir maintenir des principes démocratiques, parvenir à une souveraineté nationale et ne pas succomber à la dictature d'un parti unique. Mmh. Ça faisait beaucoup en même temps, dans une période des années 50, où ce qui dominait, c'était le clivage terrible entre droite et gauche, avec la suprématie idéologique du communisme stalinien venant du RSS.
Et donc, très, très
en
présent,
se détachant de oui. tout cela, qui était très très fort, très très fort dans les années 50.
On n'a plus idée aujourd'hui de ce que ça représentait, mais le Parti communiste était le premier parti dans le milieu culturel en France.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, il va se retrouver plongé dans cette espèce de solitude extrême, et on va l'accuser, comme on le sait, de tous les maux, en particulier d'être attaché à l'Algérie française, d'être un pied noir, d'être un partisan de la cause coloniale, ce qu'il n'était pas. Mmh. Je persiste et je signe, mmh. ce qu'il n'était mmh. pas du tout.
Mmh. Mais alors, un des éléments, c'est l'aspect français de tout ce débat et de l'idéologie. Pourquoi l'idéologie était si prégnante en France face aux incertitudes de l'époque qui était aussi la paranoïa vis-à-vis de l'avenir et la prise de conscience progressive de ce qui venait de se produire, créer un état d'esprit très particulier partout, dans tout l'Occident. Mais en France, il y avait quelque chose de particulier. Et dans Les Mandarins, le roman de Simone de Beauvoir, où le personnage, où Camus apparaît de manière extrêmement, critique sous les traits de Henri Perron, il y a un autre personnage qu'elle fait parler, qui est Skriassine, qui est basé sur Arthur Koestler. Et elle fait dire à Skriassine ceci, les Français, l'action se passe dans les années 50, au milieu des années 50, les Français ne savent pas s'ils ont perdu ou gagné la guerre. Pour réussir l'avenir, il faut regarder le présent en face, et j'ai l'impression que les gens d'ici ne se rendent pas compte, ils ont l'air de s'imaginer qu'ils pourront vivre comme avant la guerre. Les intellectuels français sont dans une impasse, en particulier eux, leur art, leurs pensées ne garderont un sens que si une certaine civilisation réussit à se maintenir, or avec la guerre froide, les progrès de la science et de la technique, les changements économiques vont à tel point bouleverser la Terre que nos manières de penser et de sentir en sont révolutionnées. Entre autres, l'art et la littérature ne nous sembleront plus que des divertissements périmés. Et cette analyse, qui est très puissante, en fait, surtout à l'époque, explique en partie, même quoi qu'en pense Simone de Beauvoir elle-même, l'attrait des intellectuels pour le Parti communiste, parce qu'il faut... il faut se donner une raison de vivre, il faut se donner une raison de continuer à être. C'est Arthur Koestler, en fait, qui dit ça, et Arthur Koestler était, c'est pas un hasard, puisque Koestler et Camus ont écrit tous les deux un livre sur la peine de mort, pour la condamner justement. Il me semble qu'il y a dans ce paragraphe là la radiographie d'une époque française dont Camus fait à la fois figure de d'emblème et de, il en est le plus conscient en fait, il est le plus conscient de ces dilemmes là et du nihilisme caché qu'il y a derrière l'adhésion au Parti communiste. Adèle Van Vreet.
Problème français ou européen, parce que vous aurez remarqué que Camus inscrit beaucoup sa pensée dans le cadre de l'Europe elle-même,
oui,
plus
oui.
même que de la France, en tout cas dans les textes dont nous parlons ce matin. Oui, en fait, ce que vous dites à partir du texte de Beauvoir, c'est que nous donnons des raisons pour tenter de justifier le fait de rester en vie quand tout s'est écroulé, que ce soit le fait d'adhérer au Parti communiste ou autre, ou à une autre idéologie, tant notre condition d'être mortel est insoutenable. Au fond, il ne faut pas oublier que derrière ça, il y a quand même une pensée de l'absurde, qu'on peut résumer très facilement. On n'a pas demandé à naître, le monde n'est pas là pour nous faire plaisir, on va tous mourir. Comment on fait à partir de là pour tenir bon? Et Camus identifie extrêmement bien la façon qu'a la pensée, pourtant lui-même se qualifie quand même comme un artiste intellectuel, la pensée de pouvoir nuire à la vie elle-même. Il y a une certaine utilisation de la pensée qui se retourne contre elle-même et qui se retourne contre la vie et qui produit autant de meurtres qu'une action qui elle-même serait, qu'on qualifierait dénuée de toute forme de pensée ou d'intelligence. Et c'est là où c'est redoutable. Il y a une versatilité de cette pensée-là. Et il le dit bien, hein, lorsqu'il dit que l'Europe souffre ainsi de meurtres et d'abstractions. Nous y sommes entrés par la pensée et c'est une maladie que d'une certaine manière nous avons voulu. Et donc, oui. il met en garde par rapport à ça. Il y a peut-être la mauvaise foi qui fait qu'on se réfugie dans la pensée quand la vie manque de sens et qu'on croit en trouver un en parce qu'on le déduit d'un raisonnement. Mais en même temps, peut-être la seule manière d'en s'en sortir, c'est quand même par la pensée d'arriver à trouver les mots pour nommer le problème qu'il désigne. Là encore, il est dans la nuance. Une position extrêmement inconfortable. C'est pour ça qu'il est mal compris. Et c'est pour ça qu'il peut lui-même désigner ceux qui vont, par facilité, se voiler la face, soit dans le divertissement, soit dans l'idéologie.
Oui, c'est ça. Ce qu'il dit, c'est que le refuge dans l'idéologie n'est qu'une forme de nihilisme, en réalité.
Ou de divertissement. C'est-à-dire c'est une manière de tourner le dos à l'essentiel.
Oui.
Ce qui est quand même dingue, mais il est très clair là-dessus. Il dit la politique, ça doit toujours être secondaire. Et si l'artiste, l'écrivain, l'intellectuel deviennent politiques, c'est leur art et leur pensée qui vont mourir.
C'est des choses qui mériteraient d'être réfléchies en ce moment, parce qu'il me semble qu'on vit une époque qui est en train de s'idéologiser très rapidement, dans les milieux intellectuels en particulier. Et donc, on a l'impression de rejouer un peu ce qui s'est passé dans les années 50.
Peut-être, en même temps, c'est toujours délicat de faire parler quelqu'un qui n'est plus là et de se dire, tiens, qu'est-ce que Camus aurait dit de notre société
aujourd'hui.
Oui, non, je peux
pas faire ça, oui.
Mais en tout cas, s'il faut garder...
Mais ça fait écho.
Ouais. Ça fait écho, ça fait réfléchir, parce que oui, d'un côté, l'artiste peut pas forcément être politique, ça veut pas dire qu'il faut tourner le dos au monde pour autant. Alors, comment s'engage-t-il? Comment écrit-il, pour revenir à la question que vous posiez au début d'émission?
Alors la position de Camus est extrêmement difficile, y compris sur le plan personnel, hein, parce que en 55, les mandarins signent vraiment son excommunication. Il est pratiquement traité d'arriviste par Simone de Beauvoir dans le roman. Et l'année suivante, en 56, L'année de la chute, qui est un roman quand même très sombre, dont William Styron dira que le comportement du personnage principal ressemble fort à celui d'un homme en proie à une profonde dépression. Camus lance l'appel pour une trêve civile, qui fait un flop complet et qui lui vaut de s'aligner un peu presque tout le monde en Algérie, Benjamin Stora.
Oui, bien sûr, parce que l'appel à la trêve civile de janvier 1956, il l'avait quand même préparé politiquement, parce qu'il s'intéressait quand même beaucoup à la politique, bien sûr l'art, bien sûr le roman, bien sûr le théâtre, mais Camus avait beaucoup, beaucoup d'amis qui étaient des militants politiques, des vieux militants politiques en qui il faisait confiance quand même. C'est ce qui l'a protégé d'ailleurs par rapport au monde intellectuel et artistique qui le harcelait et qui le méprisait. Fermons cette petite parenthèse. Donc il a, par conséquent, lancé cet appel en croyant que par cet appel, il parviendrait à trouver une solution à caractère politique dans un conflit de type nationaliste. Parce que le problème de Camus, dans le fond, sur la guerre d'Algérie comme sur d'autres choses, c'est qu'il se méfiait du nationalisme. Mmh. Et il avait peur d'une espèce de nationalisme politique envahissant, à base d'exclusivisme, et qui jetterait hors d'Algérie la communauté à laquelle il appartenait, c'est-à-dire les Européens d'Algérie. Donc il se méfiait d'un nationalisme outrancier, essayait de trouver les voies d'un compromis. Mais là, en Algérie, dès janvier 56, il y avait deux logiques nationalistes extrêmes qui s'affrontaient, ceux qui étaient déjà les partisans de l'Algérie française sous une forme très radicalisée, et puis les nationalistes algériens, qui étaient eux aussi dans une dynamique extraordinairement radicalisée. Et au milieu de ces deux dynamiques-là, l'homme de la mesure ne trouvera plus et ne trouvera de moins en moins sa place, d'autant que, comme je le disais déjà, la bataille d'Alger va éclater ensuite. Donc, quelques mois plus tard. Donc, par conséquent, cet échec, bien, marque aussi toute une époque, toute une période, hein, et la fin des tentatives possibles de négociations, de compromis autour du maintien de la France en Algérie.
Et on peut se demander si finalement la vraie leçon de Camus, c'est pas justement ce sens de la nuance et cette solitude assumée contre toutes les affirmations et contre toutes les idéologies. Il écrivait il n'y a rien de plus sûr de sa vérité qu'une idéologie périmée. C'est le genre de choses qui, à mon avis, font écho à la situation d'aujourd'hui. Adèle Van Rett, vous parliez tout à l'heure de la polémique et de l'insulte. Lui parle de la honte aussi, où il écrit « Nous sommes dans un temps où les hommes, poussés par de médiocres idéologies, s'habituent à avoir honte de tout ». Je trouve que ça fait vraiment écho à ce qui se passe en ce moment un peu partout, où tout le monde s'excuse de tout. Honte d'eux-mêmes, honte d'être heureux, honte de créer. Un temps où Racine rougirait d'écrire Bérénice et Rembrandt pour se faire pardonner la ronde de nuit, irait s'inscrire à la permanence du coin. C'est-à-dire qu'il faut montrer patte blanche, il faut montrer de tous les coins de notre société politique, on nous enjoint à nous justifier. Et sur la plus grande partie du monde, le dialogue est remplacé par la polémique et par l'insulte.
Oui, c'est ce qu'il dit lui-même. Hein, il n'y a pas de vie sans dialogue. La plus grande partie du monde, dans la plus grande partie du monde, le dialogue est remplacé par la polémique, langage de l'efficacité. En quoi consiste la polémique? Il le dit clairement, il dit en clair, c'est quand on commence à considérer l'adversaire En ennemi. Une chose est d'avoir un adversaire, c'est assez sain et c'est normal. Le considérer comme un ennemi, c'est le moment où on bascule du dialogue à la violence. C'est le moment où il n'y a plus d'interaction possible sur le ton du dialogue, précisément. Mmh. Et voyez pourquoi on a pu se moquer de lui ou le classer de philosophe pour classe terminale, parce qu'on dit « Ah, le dialogue, en fait, ça... » Bizarrement, ça a presque mauvaise presse. Tout le monde est pour le dialogue dans les faits. Personne ne veut interdire de dialoguer. Mais dire que le dialogue n'est pas la polémique, c'est très important. C'est une distinction fondamentale.
Oui, parce qu'effectivement, il y a un côté bon élève. J'ai écouté l'autre, je suis de bonne volonté. Voyons ce qu'il a à dire, moi je vais répondre de bonne volonté. Il y a quelque chose qui... Oui, bien sûr.
Oui, alors que c'est la seule manière, selon lui, de faire en sorte que les artistes, par exemple, les écrivains, n'écrivent pas par acquis de conscience, pour être récupérés de manière politique et se dire « mais je suis un écrivain bourgeois, si j'écris et que je ne parle pas des ceux qui sont dans la misère », et Camus savait de quoi il parlait alors qu'il disait ça, alors je vais me faire attaquer. Et Camus dit, mais non, mais en même temps, si vous écrivez parce que vous avez honte, comme vous disiez, parce que vous n'assumez pas votre position, vous n'écrirez jamais rien. Ce sera pas de la bonne littérature, ce sera du divertissement. Mmh. Et ça, on est loin là du bon élève, au contraire. Il pointe quelque chose de très inconfortable à tenir et très courageux.
Et qui fait, c'est vraiment, il parle d'un monde desséché par la haine. Et c'est vraiment, alors pour le coup, là, c'est vraiment ce qu'on a aujourd'hui, où tout le monde s'insulte à qui mieux, que ce soit sur les réseaux sociaux, par tribune interposée.
Ah bah on l'exprime plus aujourd'hui, mais je crois que c'est vrai depuis toujours. Hein. La haine n'a pas été inventée au XXIe siècle. Hein, simplement, les moyens de l'exprimer sont peut-être plus nombreux aujourd'hui.
Boris Leroy, qui dit rien depuis tout à l'heure, est-ce que la position du romancier n'est pas un peu... est-ce qu'il n'y a pas un écho de ça dans la position du romancier aujourd'hui, qui doit se débrouiller avec tous les extrêmes et toutes les positions radicales, toutes les vérités qui s'accumulent Camus disait, que d'église et quelle solitude.
Justement, ce qui est formidable, en tout cas dans le principe du roman, c'est la multiplicité des points de vue. C'est justement l'endroit où on peut avoir une multiplicité des discours que les adversaires ou ennemis sont les protagonistes. Je pense qu'il faut vraiment revenir aux êtres de fiction. Je crois que c'est Deleuze et Guattari qui disaient pas de science possible sans des êtres de fiction, parce qu'ils sont capables d'aller un peu partout à la place des chercheurs qui sont, je crois qu'ils disaient, prisonniers de leur corps. Et je crois qu'on peut revenir, c'est au lieu d'écouter les auteurs, il faut les lire en fait. Et c'est là qu'on retrouve, on peut retrouver un peu la nuance du discours. Et justement, parce que c'était très intéressant ce que disait Adèle tout à l'heure sur l'abstraction et la mise en garde de l'abstraction de la pensée, c'est que les êtres de fiction s'incarnent, et donc incarnent une pensée, incarnent une idéologie.
Benjamin Stora, je vais vous poser la question à tous. Est-ce que Camus a gagné ou est-ce qu'il a perdu au bout du compte? Parce que dans cette position qu'il a voulu tenir, cette position de solitude et d'éthique de la nuance, Benjamin Stora d'abord, au regard de l'histoire de l'Algérie par exemple, est-ce qu'il a gagné ou est-ce qu'il a perdu?
Disons d'abord que dans un premier temps, il a perdu. Parce que ceux qui ont gagné, évidemment, ce sont ceux qui étaient les tenants d'un parti unique et partisans d'une indépendance de l'Algérie, séparée de la France absolument. Donc ce qu'il ne voulait pas, il était partisan d'une solution fédérale. Il avait approuvé le discours du général de Gaulle du 16 septembre 59 et donc il pensait s'orienter politiquement vers une solution de type fédéraliste ou autonomie. C'était sa position. À ce niveau-là, il a naturellement perdu puisque l'histoire en a décidé autrement. Mais il a gagné sur le long terme. Parce que l'Algérie, seulement 30 ans plus tard, va sombrer dans une terrible violence dans les années 90. Oui. Et dans le fond, Camus est revenu en Algérie par l'intermédiaire des écrivains, des intellectuels, des universitaires, précisément par ce déferlement de violence et l'origine de cette violence. Et c'est là que Camus a fait un grand retour en Algérie, dans cette interrogation autour d'une société traversée par la violence. Donc voilà, je ferai une réponse un petit peu à mi-chemin, un petit peu comme peut-être Camus aurait pu la faire, je sais pas du tout. Voilà.
Adèle Van Rijt.
Ouais, effectivement, on peut pas répondre en opposant gagné-perdu parce que ce serait opposer le noir et le blanc, le bon et le mauvais, et c'est tout ce qui fuyait. En revanche, si quand on constate que autant d'années après l'année de sa mort, il est encore autant lu, autant commenté, et que le sens de la nuance n'a pas gagné, mais toujours autant espéré, ça c'est une vraie victoire. Il a quand même réussi à formuler quelque chose qui est encore très actif. Aujourd'hui, la preuve en est, tout le week-end sur France Culture, on parle de Camus et cette émission. Il y a quelque chose qui est très, très vif.
Oui, il ressemble à un dissident, en fait, un dissident français. Il a un peu cette mentalité. Je vais finir avec juste une dernière citation. « La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre, autant qu'exaltante. Quel écrivain, dès lors, oserait dans la bonne conscience se faire prêcheur de vertu ?» Sur ces bonnes paroles s'achève la saison de Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Sandrine Chaperon, avec à la technique Élise Leu et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.